L'homélie de ce week-end vous est présentée par le père Christian Robert, prêtre du diocèse de Cahors, doyenné de Serre-Dordogne.
Évangile de Jésus le Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette !» Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai !» Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. « C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. » Acclamons la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué que le nom de Ben Sirac, fils de Sirac, auteur présumé de notre première lecture d'aujourd'hui, n'est précisé nulle part. En cherchant un peu, on découvre tout de même que son nom à lui est Yeshua, en latin Jesus. C'était un érudit juif qui aurait vécu à Jérusalem au IIe siècle avant Jésus-Christ, où il aurait fondé une école de scribes. Là, il aurait écrit un livre qui compulse les fondamentaux de la culture et de la foi d'Israël, à une époque où le Moyen-Orient est occupé par les Grecs, suite à la conquête des troupes d'Alexandre le Grand, et par la suite la persécution d'Antiochus Épiphane, qui voulait éradiquer la culture et la foi juive au profit de la grecque, ce qui déclenchera la révolte des Maccabées. Paradoxalement, ce livre n'appartient pas au canon officiel de la Bible hébraïque, partagé par nos frères protestants, bien qu'écrit à l'origine en hébreu, car cette version originale a longtemps été connue simplement à travers sa traduction en grec par son petit-fils, installé à Alexandrie, en Égypte, et intégré à la Bible hébraïque dite la Septante. C'est donc à travers sa traduction grecque, que ce livre a rejoint la Bible latine sous le nom de Liber Ecclesiasticus, livre ecclésiastique, car il servait de manuel pour l'instruction au baptême des catéchumènes dans l'Antiquité. Mais de nos jours, on préfère l'appeler livre de Ben Sirac le Sage ou Siracide, pour ne pas le confondre avec le livre de l'Ecclésiaste, appelé de préférence livre de Coëlette, pour les mêmes raisons. Le plus intéressant dans ce livre de Ben Sirac le Sage, à ne pas confondre non plus avec le livre de la Sagesse de Salomon, c'est qu'on retrouve parmi les thèmes traités par ce Jésus fils de Sirac des thèmes traités comme en miroir par notre Jésus fils de Dieu 2 siècles plus tard. Par exemple, Jésus Ben Sirac nous dit: celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Alors, à ta prière, les péchés seront remis. Et Jésus, le Christ, nous dit, dans la prière de notre Père, quand vous priez, dites: pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ou encore, Jésus, Ben Sirac, nous dit: pense à l'alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas. Et Jésus le Christ, sur la croix, dit: Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Notez bien que, dans les deux cas, il est question de pardon et pas de réconciliation. Le pardon est une démarche strictement individuelle et intérieure. Elle est unilatérale et ne dépend que de nous et ne nécessite ni le consentement ni les excuses de l'autre. Son intérêt est qu'il libère du ressentiment, de la rancœur et de la colère pour retrouver la paix de l'esprit. Mot associé au début de la première lecture, rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître. En outre, vous pouvez pardonner sincèrement à quelqu'un indépendamment de toute réconciliation, en choisissant de garder vos distances pour vous protéger. Jésus-Christ lui-même nous a invités à pardonner à nos ennemis. Pardonner, c'est commencer à jeter un regard nouveau sur celui qui m'a agressé. C'est remonter la pente fatale où la blessure nous entraînait. La réconciliation, pour sa part, est un processus mutuel qui concerne le lien entre deux personnes. Il est donc bi- ou multilatéral. La réconciliation exige la participation active des personnes. En ce sens, c'est également un processus relationnel qui vise à restaurer la confiance et à reconstruire une relation détruite par le biais d'excuses sincères et de changements de comportement durable. C'est pourquoi elle n'est pas toujours possible, même si elle est parfois nécessaire, nous dit Jésus au chapitre 5 de Matthieu. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Une fois cette précision réalisée, reste la question du « où on place le curseur ?» comme disait Edward Lewis dans Pretty Woman. Simon Pierre est partisan de mettre des limites jusqu'à 7 fois. Mais Jésus, lui, veut un conte de fées, comme Viviane Ward. Alors, rapports humains impossibles ou pas? La réponse est oui, c'est possible, dès lors qu'on se souvient que les évangiles ne sont pas des reportages en direct, mais des constructions théologiques réalisées plusieurs décennies après l'ascension du Christ. Et Matthieu, qui écrit pour des chrétiens issus du judaïsme, trouve son inspiration dans la Torah. Ici, le chapitre 4 de la Genèse. Le Seigneur bannit Caïn après qu'il ait tué son frère Abel en précisant « Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. » Lamech, son arrière-arrière-petit-fils, dont la tradition retient qu'il aurait tué son aïeul par accident et son propre fils de rage, dans la foulée, dira « Caïn sera vengé 7 fois et Lamech 77 fois. » Jésus va plus loin en déclarant « Pas 7 fois comme Caïn, ni 77 fois comme Lamech, car ce sont tous de sombres personnages dont la colère et la rancune, ces choses abominables dénoncées par Ben Sira, ont conduit tout droit vers le côté obscur de la force, comme Anakin Skywalker. Le Seigneur Jésus-Christ, en qui Dieu s'est fait homme, veut, lui, 70 fois 7 fois, c'est-à-dire une miséricorde infinie. C'est cela la véritable force, celle qui ouvre résolument le chemin du cœur de Dieu à travers la configuration au Christ et par là le salut pour tous les hommes et femmes de ce monde. À travers les lectures de ce dimanche, nous sommes donc invités à nous ouvrir à une vie nouvelle, une vie qui a pour horizon la générosité du Seigneur à l'égard de chacun d'entre nous, comme le dit Paul à sa manière dans l'extrait de la lettre aux Romains de ce dimanche. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Restez indulgents jusqu'au bout de sa vie pour qui ne savait pas. Amen.